oui, bonjour, la communauté de Coup Critique, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie sur la création de personnages non-joueurs mémorables. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir ma première partie où j'entame le sujet, alors qu'aujourd'hui, nous allons tomber dans d'autres techniques et thèmes qui aideront à parfaire l'identité et l'effet mémorable que peut projeter un personnage non-joueur aux yeux des personnages joueurs. Cette seconde vidéo va davantage parler de petites habitudes ou même des opinions très personnelles que vous pouvez adapter ou adopter à votre table de jeu pour assurer l'effet que vous souhaitez faire ressentir de la part d'un personnage non-joueur. On débute ainsi avec la visualisation du personnage et l'effet qu'il dégage. Et là, ça c'est très personnel, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être en désaccord avec moi, et je ne critique pas personne, du moins à un certain point, je ne veux pas lancer des pierres à personne et je respecte la façon que vous faites le tout. Je prends vraiment des précautions. Mais pour ma part, je trouve que ça peut être très intéressant de présenter certains personnages, non joueurs, avec un visuel spécifique, des images qui peuvent afficher qui ils sont. Mais je crois que c'est intéressant et même important de ne pas se limiter à la vue pour afficher l'effet que va produire un personnage non joueur. Un design, par exemple, ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux ces temps-ci, d'intelligence artificielle qui va afficher un personnage au trait léché, trop étiré, qui au premier coup d'œil ne laisse présager aucun défaut. À partir du moment où le visuel est présenté, que reste-t-il de ce que dégage le personnage? Si vous souhaitez absolument utiliser un visuel pour représenter votre PNJ, j'aurais le réflexe de dire de ne pas commencer par l'utilisation de la vue. Stimuler l'imagination et les autres sens des personnes autour de la table avant de le présenter. Le cerveau humain va avoir naturellement le réflexe de s'imaginer un ennemi intimidant si dans la description, la meneuse ou le meneur mentionne qu'il est menaçant, qu'il est intimidant, sans nécessairement le montrer avec une image. Nous n'avons pas, chacun d'entre nous, on n'a pas la même conception, le même ressenti de ce que peut être quelque chose de menaçant. Moi, qui ai peur des requins, un personnage de la série Street Shark est quelque chose d'excessivement menaçant. Félix-Antoine de la chaîne qui a peur des fantômes, pour lui, Gaspard est quelque chose de menaçant. Nous deux, dans notre esprit, ce qui est menaçant pour nous ne l'est pas pour l'autre. Ainsi, laissez les joueurs et les joueuses mijoter un peu dans leur esprit le sens de ce que vous dites pour qu'ils puissent en fait eux-mêmes concevoir ce qu'on peut vouloir dire par l'individu qui est devant vous est menaçant. Toutefois, il ne faut pas se limiter à ce simple objectif pour expliquer son point, c'est parce qu'au final, ça ne veut rien dire. La description ne se limite pas à ça. Et c'est pourquoi il est intéressant d'aller puiser dans les autres sens pour décrire ce que le personnage peut refléter ou même ce qu'il peut faire créer comme effet. C'est sûr que si la description se limite à ça, ça ne veut pas dire grand-chose, comme je l'ai dit. Alors que si, par exemple, je dis « l'être qui se trouve devant vous dégage quelque chose de perturbant, menaçant », bon, l'adjectif est là. Vous avez l'impression que son ombre s'étire alors que son contour cache momentanément le soleil. Un goût métallique vient vous coller au palais, ce qui rappelle l'effet d'avoir du sang dans la bouche. L'être est a priori humain, mais définitivement, vous savez qu'il ne l'est pas. Mais vous ne pouvez pas dire pourquoi. Juste avec ça, il y a, oui, l'utilisation de la vue. Je l'ai utilisé, on ne se le cachera pas. L'utilisation de l'adjectif qui est menaçant, mais sous également, j'ai utilisé le goût. C'est simplement d'aller toucher, d'aller taper dans d'autres choses que vous pouvez vous permettre en tant que maître de jeu pour, on va dire, assurer un effet ou du moins accentuer l'aura ou du moins ce que peut projeter le personnage non-joueur. J'ai lu des gens sur les réseaux sociaux mentionner que cette manière de faire, de vouloir assurément décrire sans pour autant le présenter, l'afficher, peut être problématique puisque les personnes autour de la table ne vont pas interpréter les informations de la même façon. Ce qui pourrait occasionner certains problèmes dans la compréhension et dans la tentative de résolution, en fait, d'une situation. Mettons que tout le monde un peu a l'idée en tête de à quoi peut ressembler le personnage, mais en même temps, tout le monde peut un peu se tromper et ça pourrait engendrer plus de problèmes qu'autre chose. Oui, c'est possible que les joueurs et les joueuses, séparément des uns des autres, n'aient pas exactement la même idée ou la même illustration en tête, mais je ne considère pas que c'est une problématique au point de casser l'effet de crédulité autour de la table. Si un détail est absolument important à être mentionné, par exemple, l'individu que je viens de parler, là, lui qui a son aura et tout, là, puis son ombre est projetée, tout ça, il possède une gigantesque queue de scorpion. Puis cette queue de scorpion-là, il y a du venin au bout qui sort puis qui fait quand ça tombe sur le sol. Eh bien là, c'est sûr que je vais le mentionner parce que c'est une nouvelle information que les sens peuvent offrir, que peuvent en fait donné, et ça vient effectivement peser dans la balance sur la façon dont on imagine l'étranger. Soudainement, il y a une autre interprétation qui vient en tête, parce que j'ai spécifié qu'il y avait une gigantesque queue de scorpion. Peut-être que c'est un genre d'humanoïde avec une queue de scorpion, ça peut être autre chose. L'important, c'est de le préciser le plus possible, et il existe une pléthore d'outils en ligne pour aller chercher des synonymes, pour aller chercher des figures de style, pour pouvoir représenter ce qu'on souhaite, en fait, démontrer ou du moins afficher au personnage. Mais ça, on peut pas le dire, on n'a pas besoin de le dire, on peut l'expliquer, pas besoin de le montrer, en fait, avec une image. Si on montre une image, si on a un dessin de l'antagoniste, il n'y a plus de place, selon moi, à l'imagination, sur le côté intimidant, dangereux et limité par le visuel de ce que la personne aura montré. Ce dernier, en fait, le personnage dont joueur, l'ennemi, a une prédisposition à ressembler à l'image affichée, ce qui peut limiter l'imagination personnelle de se le visualiser plus dangereux qu'il ne l'est réellement. Deuxième point, la présence morale, l'influence que peut exercer un personnage non-joueur, méchant, un vilain, au-delà de sa présence physique. Encore une fois, je garde un certain focus justement sur le besoin de créer quelqu'un qui est dangereux, impressionnant, qui est menaçant, qui a une certaine, un niveau de dangerosité dans la partie. Quelqu'un qu'on ne peut pas nécessairement terrasser ou charmer sur le moment. La présence morale, l'influence, avant la présence physique. À D&D, dès qu'un ennemi entre en scène, ça devient souvent une question de chiffres, de calculs, de distance entre lui et les personnages, des dégâts, X de dégâts, X jet de sauvegarde contre X, et etc. Tant que l'ennemi n'est pas encore affiché, tant que l'ennemi n'est pas présent, il peut faire ce qu'il veut, peut, pour être menaçant, et les personnages ne peuvent rien y faire en soi, du moins rien contre lui spécifiquement, rien contre lui directement. Ils ne peuvent pas interagir directement avec lui, le barde ne peut pas tenter de faire un vin naturel pour le charmer, même si moi personnellement ça ne fonctionnerait pas, et l'implantation d'un personnage non-joueur qui est menaçant, un vilain, comme je l'ai expliqué à la première vidéo, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, c'est un travail qui se fait sur le long terme. Si on veut qu'il ait vraiment une certaine répercussion sur les personnages, sur les gens autour de la table, il peut pas arriver soudainement et être cette fameuse menace que tout le monde craint. S'il n'a pas préalablement instauré une certaine ambiance ou qu'il n'a pas préalablement démontré ce qu'il sait faire. Et je pense que parmi les choses qu'on peut, par exemple, travailler, c'est possible de implanter au fil de l'histoire des personnages importants et ou puissants, des personnages non-joueurs qui sont peut-être positifs envers les joueurs ou peut-être même neutres, et ces personnages-là, eh bien, ils peuvent mourir, ou même parfois encore pire, être cassés moralement ou mentalement. Parce que parfois, à Donjons & Dragons, entre autres, bien dans d'autres jeux, la mort n'est pas nécessairement la chose la plus dangereuse, ou du moins la plus, on va dire, déplaisante à vivre. Parfois, c'est l'humiliation. c'est blâme à dire, mais des fois c'est ça, l'humiliation. On aime nos personnages, on aime les gens avec qui on interagit. Des personnages non-joueurs qu'on apprécie qui sont humiliés ou cassés mentalement, ça peut avoir un impact beaucoup plus fort que leur mort, et ça peut justement démontrer à quel point est-ce qu'un antagoniste est dangereux et ou un vrai vilain. Le maître de jeu ne peut pas contrôler ce que les personnages pensent. C'est normal. Même s'il dit, même si le maître de jeu, le meneur ou la meneuse va dire « Ouh, vous le trouvez vraiment, vraiment menaçant », même s'il assume avec une affirmation, même pas une question, que le méchant qui est devant les personnages est menaçant, rien ne dit qu'ils vont agir en prenant en considération cette affirmation établie. Surtout s'il n'y a pas de règles qui gèrent, on va dire, l'aspect moral ou mental des personnages, ce qui est la majorité des jeux, même si beaucoup d'autres jeux l'ont, et moi j'apprécie bien ça. Toutefois, un meneur ou une meneuse peut tout à fait tout contrôler ce qui se déroule au-delà des actions des personnages, alors qu'il faut utiliser le monde qui entoure les personnages pour assurer l'effet que peut émettre un vilain. Mettre à mort des proches des personnages, par exemple, battre en duel un ancien maître d'armes des personnages, acheter le silence ou la loyauté de personnages non-joueurs que les personnages considéraient comme des amis, avoir une influence sur ce que les personnages sont aujourd'hui comme individus. Tout ça, ce sont des choses qu'un vilain peut mettre en scène et qui peut améliorer ou du moins accentuer l'effet qu'il va projeter. Les possibilités sont nombreuses si on réussit à maintenir une distance entre ce que représente l'ennemi comme menace et non ce qu'il représente comme caractéristique mécanique. Même si à un certain point, ça va rentrer en jeu, c'est sûr et certain, c'est une bonne partie des jeux de rôle fonctionnent ainsi. C'est par exemple aussi, une autre chose que j'apprécie beaucoup, c'est faire des suppositions. Un personnage, un joueur, vilain, un méchant, peut faire des suppositions. lorsque vous jouez un personnage non-joueur arrogant. Faire des suppositions sur comment est-ce que les personnages agissent, qui ils sont, d'où est-ce qu'ils viennent. C'est le genre de choses qui vient vraiment, vraiment, on va dire, atteindre le cœur des personnages. Parce que c'est souvent un peu plus personnel et souvent c'est un peu plus sur une question de fierté puisqu'on est très attaché à nos personnages. Plus que le fait de vouloir jouer sur les muscles et sur la puissance et de vouloir terrasser les personnages physiquement. Parce que là, encore une fois, on tombe dans les chiffres. On tombe dans les calculs. Alors, aller jouer dans l'aspect moral, aller jouer sur ce que sont les personnages, ou du moins ce que sont les personnages aux yeux du vilain, ça peut être un bel effet, ou du moins une belle manière d'accentuer ce qu'il va projeter comme menace. Et finalement, une dernière chose que j'apprécie beaucoup, c'est, j'ai vu ça sur Internet et je trouvais ça super intéressant, puis en fait, je suis bien d'accord avec ça, c'est ce qu'on appelle la méthode Dolores Umbrage. Si vous avez écouté Harry Potter, si vous avez lu les livres, c'est une méthode que je considère, en fait, c'est pas vraiment une méthode plus qu'une manière de faire, je considère une manière de visualiser un méchant. Il y a une raison pour laquelle ce professeur-là est particulièrement détesté par les gens, par autant les fans de Harry Potter que même les personnes dans le film aussi. Un professeur qui n'est pas vraiment le méchant le plus fort ou le plus intimidant, alors que ça redresse, en tout cas, selon, je sais pas, j'ai pas lu les livres, mais ça resterait Voldemort, j'imagine. Pourquoi est-ce qu'elle, elle crée autant cet effet-là? C'est parce qu'elle est basée sur la réalité. C'est quelque chose à quoi on a tous été exposés, d'une manière ou d'une autre. On va trouver un archétype avec lequel vos personnages ou même les joueurs ont déjà eu affaire dans la vraie vie, et vous pouvez modeler un méchant là-dessus. Pensez par exemple à un patron, quelqu'un qui a été votre supérieur dans une job que vous avez détesté. Et c'est quoi le comportement de cette personne-là, de cet individu-là, de ce patron-là? Ça peut devenir quelque chose. Bien sûr, faut faire attention, on ne va pas aller jouer sur les traumas et les traumatismes des gens. Ça, je le dis tout de suite, là, il y a une certaine limite à ne pas dépasser. Là, si vous basez un ennemi sur un PNJ, sur quelqu'un d'absolument détestable qui a eu une répercussion négative sur la vie d'une des personnes autour de la table, faites pas ça, je vous prie. Mais la méthode d'aller jouer sur des gens qui sont réels et qui ont vraiment des comportements qui sont horribles, même détestables, plus détestables qu'horribles, je dirais, ça permet en fait justement d'accentuer l'effet qu'ils sont puisqu'on est plus proche de la réalité. C'est un peu ce qu'on appelle l'effet, il y a aussi ça, j'avais déjà lu ça quelque part, c'est l'effet Dragon Ball. L'effet où, à un certain point, la menace est tellement grande, est tellement immense, est tellement difficile à imaginer, à visualiser, qu'elle ne crée plus réellement d'impact aux yeux des lecteurs, aux yeux des gens qui sont dans la partie. Donc, même un ennemi qui est plus terre à terre, mais qui a un comportement, ou du moins une certaine influence et une attitude qui reflète quelque chose de réaliste, mais de particulièrement comme désagréable et à la limite épeurant, ça va avoir plus d'effet qu'un gros crime de dragon à 8 têtes qui crache du feu puis qui se mange entre lui, là, t'sais, qui mange entre les têtes entre lui. J'imagine que ça pourrait arriver. Donc, c'est ouais, la méthode de l'arrêt sombrage. Et ça, je trouve ça intéressant pour jouer sur un vilain. Et là, bien entendu, là, encore une fois, voyez-vous, j'ai joué beaucoup sur l'effet premier, ou du moins juste l'aura que va faire un personnage non-joueur. J'ai pas mentionné qu'est-ce que fait un bon vilain en soi, tu sais, son planning, son plan, quelqu'un qui a une ambiguïté morale, quelqu'un qui a finalement est du côté des joueurs, mais qu'ils ne savent pas. Tu sais, il y a plein de choses à aller travailler là-dessus, et ça, il y a beaucoup, beaucoup déjà de vidéos et de sujets et d'articles sur le sujet. Je voulais vraiment plus parler sur l'effet, l'impact que fait un personnage non-joueur menaçant, un méchant, comment est-ce que celui-ci peut réellement avoir une certaine influence indirecte ou directe dans la partie. Et bien entendu, côté mécanique, ça mettons, vous jouez par exemple à Donjon Dragon ou même d'autres jeux qui sont compatibles avec ça, il y a différentes méthodes pour, disons, donner un peu plus de piquant au vilain en lui offrant des façons, ou du moins certaines capacités qui vont au-delà de ce que peuvent faire les personnages, parce que sinon, s'il est seul et qu'il se ramasse face au personnage, il y a de très bonnes chances qu'il se fasse défripper, comme on dit, qu'il va se faire ramasser et virer de bord comme un bas, et ça ne sera pas du tout quelque chose de mémorable. Et c'est quelque chose que je constate très décevant lorsqu'un vilain a une fin qui est plus que triste et pas du tout dans un beau momentum. C'est, ça se travaille sur le long terme, ça se travaille, ça se prévoit. Et j'espère que ça a été appris. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous avez eu des réflexions. Cette vidéo-là était un peu moins justement sur les techniques à mettre en place. C'était plus justement des avis personnels, des petites choses, des petites astuces que je trouve intéressantes dans le contexte d'un vilain pour la personnalisation et l'impact d'un personnage en joueur qui est un méchant. Et j'espère que vous avez apprécié ça. J'espère que vous avez apprécié aussi la première vidéo. Si ce n'est pas fait, je vous encourage à aller la voir. Je vous encourage aussi à liker, partager. Partagez donc un peu les vidéos. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Et abonnez-vous aussi. Abonnez-vous, ça serait cool. Et pour les autres, on se dit à une prochaine capsule. Si vous avez d'autres sujets comme ça, là, voyez-vous ce sujet-là, je l'ai vu apparaître sur un groupe Facebook de Donjons & Dragons Québec. Et je trouvais ça intéressant. J'ai fait « Ah, c'est vrai que c'est quand même intéressant comme sujet. » Et si jamais vous avez d'autres questions comme ça, mettez-les en commentaire. Pour vrai, mettez-les en commentaire. J'aimerais ça pouvoir réfléchir un peu sur quoi parler. Des fois, je manque d'idées. Et en ce moment-là, je dois aller fouiller sur les groupes pour pouvoir trouver un peu des sujets qui font jaser et qui ont un certain intérêt pour les communautés. Et sinon, bien, on se dit à la prochaine. On va se parler, j'imagine. Hein? On va s'écrire. On s'écrit des belles lettres. Au revoir. Bye-bye.